Libre-échange.
Ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur Assoit dans le cadre de Libre-échange. Nous allons parler d'une industrie toute particulière, mais qui fait que notre pays peut en être très fier. Il s'agit de l'industrie aéronautique. Notre invité est le président du GIMAS, qui est le groupement de l'ensemble des entreprises de ce secteur d'activité, de cette industrie, c'est de l'aéronautique. Il est aussi le directeur général du CETIM. On va comprendre avec Karim Chir ce qu'est le GIMAS, mais aussi ce qu'est le CETIM. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous.
Et pour m'accompagner et représenter la vie éco, c'est Mehdi Montalib qui a fait le déplacement cette semaine. Ravi de vous retrouver, mon cher Mehdi.
Moi également.
Tout se passe bien ?
Très bien, et vous ?
Oui, impeccable. On va peut-être commencer par vous demander de nous dire en quelques mots. Vous êtes directeur général du CETIM, c'est un centre technique qui est dédié à votre secteur, celui de l'aéronautique. Ce qu'est le CETIM, on aidera plus largement à ce que le GIMAS et votre industrie dans sa globalité.
Alors brièvement, le CETIM, c'est un centre technique industriel. Donc, nous avons deux filiales à Casablanca, spécialisées dans un marché. Aujourd'hui, ce que nous faisons, nous faisons des tests et des contrôles de pièces de moteur, de fuselage d'avion et des trains d'atterrissage. Sachant que les résultats des tests que nous faisons permettent de déclarer la conformité des pièces, c'est-à-dire qu'on signe un PVDC qui certifie que la pièce est bonne à être montée sur un train ou sur moteur. Voilà, donc,
Et en fait, ce centre est un centre qui appartient à un groupe international.
Exactement, nous sommes 1200 personnes. Nous sommes présents.
1200 personnes au Maroc
Dans le monde. Avec une 150 personnes ici à Casablanca. C'était le premier centre qui était monté à l'étranger. Nous avons des sites en France, en Malaisie, à Singapour et en Tunisie. Mais le centre dédié à l'aéronautique, il est uniquement sur Casablanca.
Les autres sont dédiés à d'autres activités industrielles.
L'automobile, le pétrole et d'autres secteurs.
Et donc, les éléments de l'avion que vous certifiez, vous, dans votre centre à Casablanca, sont les éléments qui permettent d'assurer le niveau technique, de technologie et de normes de sécurité pour que ces avions puissent voler dans le monde.
Exactement. Une pièce qui est déclarée non conforme ne peut pas être montée.
Elle ne pourrait pas être montée sur un avion.
Exactement.
Et les 150 personnes qui travaillent au Maroc, combien de Marocains ?
On est tous Marocains.
Ah, magnifique. Merci et félicitations à vous. J'en profite pour saluer l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise, le CETIM à Casablanca. Vous êtes aussi le président du GIMAS. Le GIMAS, c'est le groupement de l'ensemble de l'industrie aéronautique au Maroc. Si on pouvait vous demander en quelques chiffres, qu'est-ce qu'on doit avoir à l'esprit quand on pense à l'industrie aéronautique dans notre pays ?
Alors aujourd'hui, pour que nos auditeurs puissent comprendre de quoi on parle, aujourd'hui, le secteur, on dit aéronautique et spatial, il ne faut pas oublier qu'au Maroc, on fait aussi des pièces de satellites. Mmh. Donc ça concerne plutôt le spatial. Les chiffres clés, c'est 140 entreprises qui opèrent dans le secteur, sachant que début des années 2000, on en avait peut-être 5 ou 6. Donc un développement important de cette plateforme industrielle, c'est 1,6 milliard de dollars d'export. Donc ça, ce sont les chiffres officiels de l'Office d'échange. Il y a 16 700 employés, salariés, niveau Bac plus 2 minimum. Mmh. Et je suis fier de vous annoncer que 46% de ces salariés sont des femmes.
46%. Ça doit être pris pour un exemple. Au moment où le taux d'activité des femmes est en baisse depuis un certain nombre d'années, 18 en moyenne dans l'urbain, 22 en moyenne à l'échelle nationale, 46% des femmes dans votre secteur. Pourquoi ce taux est si élevé ? Leur niveau de compétence est égal à celui de l'homme ?
Il y a à la fois le niveau de compétence, puis il y a des activités qui s'y prêtent. Vous savez, quand on fait de la connectique et du câblage aéronautique, il faut de la dextérité.
Un niveau de précision.
Et un niveau de précision qui est important. Donc les femmes jouent pleinement leur rôle dans cette industrie. Et je suis fier de l'annoncer, vraiment.
Ah ben, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut partager comme chiffre avec les auditeurs sur le secteur aéronautique ? Aéronautique et spatiale, je vais le faire une fois pour toutes, mais vous comprenez bien que j'entends les deux.
Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 140 entreprises, nous sommes réparties en fait en écosystème. Il y a des écosystèmes qui étaient là depuis le début, comme tout ce qui est manufacturing et assemblage. Nous avons un écosystème connectique et câblage dont je viens de parler. Il y a un troisième écosystème, c'est l'ingénierie. Le quatrième sur lequel on travaille d'arrache-pied parce qu'il a tendance à stagner, c'est le MRO. C'est tout ce qui est maintenance des avions. Et je vous dirai pourquoi ça stagne. Et puis, on s'est rajouté depuis avec monsieur le ministre Malak Fedalami, nous a incité fortement sur deux écosystèmes à forte valeur technologique qui sont les composites et les pièces de moteur. Aujourd'hui, nous avons des membres qui fabriquent des pièces de moteurs qui sont envoyées à l'étranger.
Et qui sont des pièces qu'on peut trouver
sensibles.
Partout.
Non, c'est, parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la montée en gamme que l'on souhaite pour notre secteur, c'est d'être dans des procédés de fabrication, des matériaux qui sont hautement technologiques. Mmh. Donc, ce n'est pas... En fait, on est passé peut-être très peu d'un modèle d'un atelier déporté. C'est un modèle qui ne marche pas, donc okay. On a du tout, à la colocalisation. Et aujourd'hui, nous sommes sur un modèle de co-développement. C'est-à-dire que les filiales étrangères, ce sont des sociétés marocaines, mais de filiales étrangères, co-développent avec leur maison mère au Maroc.
Quand vous dites co-développe, ça veut dire qu'on a, en fait, en réalité, si je comprends bien, on a passé d'un modèle qui s'apparentait à ce que pouvait être le textile il y a longtemps. On va utiliser la main-d'œuvre.
Voilà, c'est fini. C'est
cet atelier-là où on va fabriquer parce que la main-d'œuvre est là, elle est compétente, voilà. C'est fini. Aujourd'hui, on fait du co-développement, ça veut dire qu'on est capable d'imaginer de l'ingénierie, de la recherche et développement, des solutions par rapport à des problèmes complexes auxquels les équipes marocaines contribuent avec leur maison mère.
Parfaitement. J'aurais pas dit mieux que vous.
Ah ben écoutez, non, mais c'est bien, c'est que la lumière était là à ce moment-là.
Exactement.
C'est juste ça. C'est un moment de lumière. Si on peut faire un petit focus sur la partie recherche et développement, vous savez qu'un des points faibles de notre pays, et on ne va pas se comparer à ceux qui ne marchent pas, mais à ceux qui fonctionnent, c'est que nous avons un niveau d'investissement en recherche et développement lamentable, globalement par rapport au PIB et globalement par rapport à lorsqu'on prend des périmètres sectoriels. Dans votre secteur, c'est essentiel. Est-ce que nous avons une recherche et développement intrinsèque, ou j'ai envie de dire intra-Maroc ?
Alors, nous sommes conscients de l'importance de la chose. Il y a le GIMAS donc, qui fédère et qui représente les industriels en matière de production, en matière de performance de la plateforme, la compétitivité, etc. Nous accompagnons nos membres. Le volet recherche et développement, on a créé depuis plus d'un an un cluster aéronautique qui, lui, se veut être une plateforme d'échange entre les industriels, les universités, les écoles d'ingénieurs et les instituts sur des thématiques industrielles aéronautiques à très forte valeur ajoutée. C'est la R&D, l'innovation, et on a des sujets qui sont déjà établis. On travaille sur des technologies de pointe, sur l'industrie 4.0, sur la fabrication additive ou ce qu'on appelle l'impression 3D. Ce sont des sujets d'avenir, parce que notre objectif, c'est d'être présent à l'heure où il faut être. Parce que sinon, on va essayer de rattraper le retard.
Oui, parce que ça a un coût d'être visible sur la carte mondiale d'une industrie aéronautique qui est par définition une industrie mondialisée.
Exactement.
Ben, si on loupe un virage technologique, on risque d'être gommé très vite.
Exactement. Là, je vais reprendre une expression qui vient de Moulay Hafid El-Alami, ministre de l'Industrie. Il faut qu'on continue constamment à être bippé par les radars mondiaux au niveau de l'aéronautique.
Ouais.
Donc, c'est pour ça.
À chaque fois qu'on se pose la question, il faut que le Maroc ressorte, fasse un bip. On est là et on est capable de faire.
Exactement.
Merci beaucoup pour cette image. Salutations au ministre de l'Industrie. Allez, mon cher Mehdiad Mottali.
Nous allons passer au plan d'accélération industrielle et des objectifs qu'il impose. Quelles ont été les réalisations de l'écosystème par rapport à ces objectifs-là, et où en est le Maroc aujourd'hui en termes de taux d'intégration?
Alors, je vais commencer par vous donner un peu les engagements, parce que le plan d'accélération industrielle, c'est un engagement à la fois des industriels, mais un engagement de l'État. Le premier engagement, c'est la formation de 23 000 salariés dans le secteur. C'est de passer de 140 membres aujourd'hui, enfin 140 industriels à 200. C'est d'accompagner une vingtaine de PME, TPE à intégrer l'écosystème aéronautique. Et puis, on est passé au début de PAI, et le taux d'intégration était à 17% pour arriver à 35% horizon 2022. Aujourd'hui, fin 2018, le taux d'intégration locale, il est à 34%.
D'accord.
34%. Donc, on est quasiment à l'objectif de 2022. Donc, ce taux d'intégration, il a été revu à 42%. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que le taux d'intégration, ça ne s'improvise pas. Nous avons fait une cartographie complète de nos métiers dans tous les écosystèmes qui existent au Maroc. Et on s'est aperçu, comme dans tous les pays, qu'il y a des trous dans la raquette.
D'accord.
Il y a des choses qui n'existent pas, donc on a concentré nos efforts pour combler ce qui manquait dans la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, on est en passe de le réussir, parce que ça nous permet aussi d'attirer des investisseurs pour qu'ils puissent venir compléter pour un marché existant, qui vient de compléter notre chaîne. Et le cheval de bataille, il est là-dessus. Il est sur, parce que il y a quelques années, on pouvait fabriquer une pièce. On n'avait pas, par exemple, on n'avait pas de traitement de surface. Donc il fallait que la pièce parte à l'étranger, ce qui rend la compétitivité un peu difficile. La pièce traitée revient au Maroc pour être assemblée avec d'autres pièces et expédiée au client. Vous voyez le circuit. Aujourd'hui, on exporte des composants. Pièces fabriquées, traitées, envoyées au client. Donc c'est ça qui permet en fait au taux d'intégration local d'augmenter.
Donc c'est un taux d'intégration qui a été revu aujourd'hui à 42%.
42,
à quel horizon?
2022.
Et vous gardez l'horizon et vous augmentez l'ambition.
Oui. Ben, il faut.
j'aimerais vous poser une question complémentaire par rapport au plan d'accélération industrielle. Vous le savez, monsieur le président du GIMAS, que l'ensemble des investisseurs que nous avons dans ce secteur sont des multinationales. Est-ce qu'on peut imaginer demain capter de l'investissement national qui viendrait dans cette chaîne de valeur et prendre une position quelconque?
Vous mettez le doigt sur un sujet qui m'est particulier. J'appelle de mes voeux. Donc, à ce que des Marocains locaux puissent venir investir dans le secteur. Ceci dit, on continuera aussi, parce qu'il faut des deux, il faut les étrangers.
Oui, mais on a besoin, bien sûr, c'est eux qui ont le marché mondial.
Exactement.
Le marché mondial est étranger, mais ma question, c'est est-ce qu'on peut rentrer dans ces chaînes de valeur et avoir des investissements marocains, quitte à ce qu'ils démarrent à Casa et que demain ils soient en Malaisie ou au Mexique ou ailleurs.
Exact. En tout cas, sachez que le GIMAS est à la disposition de tout investisseur qui s'intéresse au secteur pour l'accompagner.
Oui.
Nous avons aussi l'AMDIE, qui joue un rôle important, avec les équipes du ministère de l'Industrie. Nous sommes une équipe Maroc qui est à la disposition des investisseurs pour leur faciliter la vie et de les intégrer dans l'écosystème.
On va toujours parler d'investissement et d'international, et je donne la parole à Mehdi Moutali.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement le cas Bombardier? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Alors,
pour nos auditeurs et auditrices qui suivent, évidemment, Bombardier a annoncé qu'il quittait le Maroc après avoir annoncé qu'il faisait un investissement pour une usine, en fait. Mais Bombardier a annoncé qu'il cédait son usine au Maroc. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les faits. Je vais vous laisser expliquer.
Exactement. Vous êtes comme moi, vous voyez la moitié pleine du verre.
Je regarde des faits. Moi, je veux juste parler des faits et après, on va regarder les interprétations.
Alors, pour nos auditeurs, les avionneurs qui sont célèbres, vous avez Boeing et Airbus, qui est plus gros, vous avez Bombardier, qui est une entreprise canadienne, et vous avez Embraer,
qui est brésilien.
Qui est brésilien. Après, vous avez d'autres.
Après, il y a les Chinois qui font leur travail encore.
Exactement, qui vont bientôt avoir leur avion. Bombardier ne quitte pas le Maroc. C'est juste une cession d'actifs, et ça, vous en avez tous les jours. Donc c'est,
en fait, l'usine reste au Maroc.
Bien sûr qu'elle reste.
C'est ça que vous voulez dire explicitement.
Exactement.
C'est le propriétaire de cette usine la vend.
Il la vend suite à une restructuration. Il n'y a pas que l'usine de Casablanca qui est concernée par la restructuration, parce que l'usine de Belfast, il y a 3600 personnes.
Et l'usine de Casa?
400 personnes, avec un objectif de 800 personnes autour de horizon 2020.
D'accord.
Donc la cession du site de Casablanca se fera avec Belfast. Et moi, je vois plus l'opportunité pour qu'on puisse avoir un équipementier majeur qui puisse absorber le site de Belfast et le site du Maroc, parce qu'ils vont groupés, tous les deux. Ça permet au site marocain de se développer, parce que l'activité, c'est de l'aérostructure. L'aérostructure, c'est des éléments d'aile, de fuselage, etc., qui est une activité fortement concurrentielle. Donc vous voyez, par exemple, nous avons la filiale d'Airbus, 100% Airbus, qui fait de l'aérostructure pour Airbus, qui est basée à Casablanca, c'est la Stelia. Donc aujourd'hui, je dirais que le développement du site, moi je passe tous les matins devant Bombardier. Donc je vois les ingénieurs et techniciens rentrer, travailler, ils travaillent. Il y a même dans le contrat avec l'État une extension pour faire les inverseurs de poussée de l'avion qui a été vendu par Bombardier à Airbus. L'année dernière, Bombardier a vendu tout un programme. Il s'appelle le C-Series, qui a été vendu à Airbus, et qui s'appelle maintenant l'Airbus A220. Les inverseurs de poussée se feront à Casa. Il est prévu une extension du site de Casablanca. Donc, si vous voulez, il y a eu une alerte.
En fait, ce que vous nous dites, Monsieur Cher, c'est que ce n'est pas un recul ou une remise en question de l'usine de Casablanca. C'est le propriétaire de cette usine qui la vend à d'autres gens.
Exactement.
Et alors, qui va l'acheter?
Aujourd'hui, il y a eu trois noms qui ont circulé. Il y a, parce que vous savez que le processus est lent hein, pour acheter.
Oui, quand on veut vendre une usine, ça ne se fait pas comme on vend chez le boulanger son pain tous les jours.
Exactement.
Il faut attendre plus de temps et il y a des processus plus longs.
Il y a les noms qui ont circulé, mais après, c'est les discussions au sein du groupe de Bombardier. C'est Spirit,
oui,
qui est un groupe américain, un gros groupe entier. Il y a GKN, qui est un groupe anglais. Et puis, il y avait aussi Airbus.
Donc, il y a des gens qui sont intéressés par cette usine.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que d'abord, Bombardier a intérêt à la garder parce qu'il vient de signer des contrats il y a un an avec Airbus où cette usine doit fabriquer et livrer Airbus.
Exactement. Et vous savez que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Bombardier qui le dit. L'usine de Casablanca est une des usines les plus performantes du groupe. Donc, ouais. Donc on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Oui.
En fait, Bombardier préfère vendre l'usine, mais garder le flux et garder la production de cette usine, mais payer les pièces et payer son nouveau fournisseur qui va lui acheter.
Exactement.
Est-ce que ça ne peut pas être une opportunité pour des Marocains? Je rêve à voix haute.
Comme il y a la vente de Belfast, 3600. Oui.
C'est trop gros.
C'est trop gros.
Et il faut être dans cette industrie à l'échelle internationale.
Il faut être équipementier de rang 1.
Oui,
même un rang 2 ne peut pas
accéder à ce type de choses. Peut-être une question supplémentaire là-dessus.
Sur ce phénomène-là d'acquisition par les fournisseurs, est-ce qu'il y a, je n'ai pas envie de dire un risque, mais une possibilité de contagion de cette stratégie? Parce que, d'après ce que vous nous expliquez, c'est une stratégie.
Oui, mais vous savez que l'année dernière, quand Airbus a acheté l'avion C-Series de Bombardier, Boeing a acheté un autre programme à Embraer. Donc on assiste à une concentration, si vous voulez, de la chaîne des avionneurs. Vous savez qu'un avion, on peut pas. Nous, on dit Airbus, c'est français, enfin c'est européen.
C'est européen. Ouais.
En fait, les pièces viennent
du monde entier.
Du monde entier.
C'est clair.
Vous savez que moi, à chaque fois, et ça, il faut que nos auditeurs le comprennent, à chaque fois qu'on monte dans un Airbus A320 ou un Boeing 737, il faut se dire qu'il y a des pièces qui sont fabriquées au Maroc, il y a des câbles qui sont fabriqués au Maroc, des équipements de cockpit, les manches de commande, etc., qui sont fabriqués au Maroc. Donc la tendance...
Et qui sont utilisés dans le monde entier.
Dans le monde entier.
Par toutes les compagnies du monde.
Exactement, exactement.
Voilà, et merci aux collaborateurs, collaboratrices qui, dans les usines, ont fait en sorte que ces pièces soient de qualité et montées sur tous ces avions.
Exactement, c'est une fierté pour nous, vraiment.
Je vais vous demander de conclure, si vous voulez bien, avec vous, Kadim Cher. Je rappelle que vous êtes directeur général du CETIM et président du JIMAS. Le sujet par lequel je voudrais vous proposer de conclure est un sujet un peu plus divertissant. Quelle est la rencontre annuelle ou la grande messe de l'aéronautique dans laquelle les représentants de ces 140 entreprises se retrouvent pour se dire qu'il y a des opportunités pour développer un peu plus?
Localement au Maroc ou
parce localement ou internationalement?
Au niveau international, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, il y a le salon du Bourget, hein, qui est le plus gros salon aéronautique au monde à Paris. Donc, comme toutes les éditions, le Maroc sera présent dans un pavillon avec le ministère de l'Industrie, l'AMDIE, le JIMAS et les opérateurs présents localement. Nous avons nos assemblées générales, où il y a un état d'esprit entre les opérateurs qui est de très, très bonne qualité. Nous avons des workshops aussi, qu'on organise toute l'année, à la fois sur les thématiques qui intéressent nos membres, à savoir les ressources humaines. Et ça, je souhaiterais dire un mot sur la formation. Les ressources humaines, la supply chain, la partie financière, la partie fiscalité, etc. Donc, toutes ces réunions permettent de créer du lien entre nos membres.
Voilà, ça sera votre conclusion.
Un point fondamental, tout ça ne se fait pas sans les hommes
et les femmes. Les femmes et les hommes, bien sûr, qui contribuent tous les jours.
Contribuent. La formation. Donc, vous savez que le JIMAS gère l'IMA, qui est l'Institut des métiers de l'aéronautique. Aujourd'hui, on forme plus de 1700 techniciens par an, en formation qualifiante et en formation continue. Et les 1700 travaillent, parce que c'est une formation par alternance.
Répond aux besoins du secteur.
Voilà, qui répond aux besoins du secteur. La partie, on a un écosystème dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la maintenance avion et moteur qui a tendance à stagner et sur lequel on travaille. On a quelques soucis en matière de formation, parce que nos talents, les Marocains, sont tellement bons qu'ils s'expatrient.
Oui.
Donc ça crée un vide. Donc avec l'ISMALA, qui est l'Institut de l'OFPPT, on a signé la semaine dernière un MOU entre le ministère de l'Industrie et le ministère de
l'Enseignement et de la Formation professionnelle,
le JIMAS et l'OFPPT, pour que la gestion soit donnée au privé.
Merci beaucoup. Et on retient de vos propos, Kadim Cher, qu'à chaque fois qu'on met le capital humain dans un secteur, ben on a le levier pour pouvoir faire du développement. Et c'est toujours le capital humain qui est au cœur. Les investissements suivent. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va suivre l'actualité, évidemment, de votre secteur. J'aimerais finir cette émission, comme chaque semaine, par un top et un flop. Et je vais commencer par le flop et je laisserai la conclusion par le top. Ça nous permettra de partir et de vous laisser passer à la fin de la journée avec de bonnes news dans les oreilles. Le flop concerne Quartier Saada, qui a donné son profit warning sur les résultats annuels au 31 mars 2019 dans un communiqué de presse qui est publié sur le site de la Bourse de Casablanca. Dès ce lundi, Quartier Saada nous annonce que le chiffre d'affaires de l'exercice social 2018-2019 a enregistré un retrait de 6% et que le résultat devrait également s'inscrire en baisse par rapport à l'exercice social 2017-2018. Cette baisse est liée au recul des ventes en France, qui est le premier marché de la société, et sont raison d'une saison estivale courte et d'un pouvoir d'achat en régression, mais aussi dans les pays de la région MENA, qui connaissent une conjoncture économique très difficile et des difficultés de règlement de devises pour certains de ces pays. À noter que le plan d'action annoncé par Quartier Saada en décembre 2018 a déjà, je cite, commencé à donner des fruits en ramenant le recul de chiffre d'affaires à 6% par rapport à la fin de l'exercice précédent, qui était plutôt enregistré à 16,5%. Pour le premier semestre de cet exercice-là. Voilà, ben bon vent à Quartier Saada, parce qu'il faut dire que Quartier Saada produit de l'agroalimentaire et que l'agroalimentaire est une denrée extrêmement importante et cette industrie en a besoin dans notre pays. On va finir par un top. Il concerne le secteur du tourisme. Je vais faire mon top, mais je vais le nuancer évidemment en conclusion. Près de 3,6 millions de touristes ont visité le Maroc entre janvier et avril 2019, ce qui est une très bonne nouvelle, avec une progression de 6% par rapport à la même période un an auparavant. Plus 5,3% de touristes étrangers, plus 7,8% pour les Marocains résidant à l'étranger. Il faut dire qu'on s'est arrêté à fin avril, donc on n'a pas encore le ramadan et l'effet ramadan des résidents marocains à l'étranger. Les principaux marchés émetteurs qui ont connu une hausse en termes d'arrivée en cette période ont été les États-Unis plus 14%, l'Italie plus 13%, suivi de la France plus 9%, l'Espagne plus 9%, l'Allemagne plus 8%, la Hollande plus 7%, la Belgique plus 5%, enfin le Royaume-Uni plus 14%. Il faut dire que les villes de Marrakech et d'Agadir, à L2, ont dévoré 58% des nuitées totales de cette progression et de ces chiffres-là. Eh bien, ça montre qu'on est en bonne voie, mais quand je pense à la Turquie, qui fait 44 millions de touristes, on a encore du chemin devant nous. Réveillons-nous, gardons cette hospitalité marocaine, sa capacité à faire de levier, et faisons de l'expérience de nos touristes une expérience inoubliable qui fera qu'ils reviendront chez nous. Rendez-vous même heure, même endroit la semaine prochaine. Vous savez où ça se passe, ça sera sur Aswati avec plaisir.